Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur le petit plateau. Chose promise, chose due, nous voilà avec le pendant finalement de l'épisode précédent où on va évoquer les déceptions. Et donc toujours avec ma dream team préférée, Romain et Alexis. Salut les gars.
Salut, salut.
Alors là, vous imaginez pas, après celui qu'on vient de vivre en satisfaction, où on a eu quelques petites surprises, je m'attends à tout sur les déceptions, encore plus, donc je crois qu'on va beaucoup s'amuser pour cet épisode. Bah, voilà, je pense que nos auditeurs l'ont déjà compris, c'est la même idée que l'épisode précédent à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pas ici dire qui a fait la pire saison, c'est qu'on a des attentes en début de saison, et qui aura été pour vous la plus grosse déception? Je pense qu'on va rentrer dans un classement encore plus subjectif parce qu'on a des attentes très différentes en fonction de l'affect, etc. Et donc bah, j'ai hâte de voir ça et on va attaquer tout de suite. Bah, Alexis, parce que Romain t'avait piqué
Ouais, je
la
retiens.
préférence lors de l'épisode précédent, je vais te rendre la priorité. Alexis, je te propose de commencer avec ton 10e nom dans les déceptions.
Bah, mon 10e nom, je serais curieux de savoir si vous y avez pensé ou pas. Mais mon 10e nom, c'est Agones. Parce que Agones, on le rappelle, en 2021, il est quand même champion du monde chez les juniors en surclassement, devant Grégoire notamment. Donc c'est quand même pas rien. Il est aussi troisième de Roubaix Junior. Et l'année passée, il a quand même montré de belles choses sur les Flandriennes en tant qu'équipier. Et cette année, bah, pas de blessures répertoriées, beaucoup de jours de course, et pourtant rien à se mettre sous la dent. On pourrait s'attendre à ce qu'à son âge, il progresse, il monte en puissance, mais au final, si on compte pour moi, en tout cas, peut-être que j'ai manqué des choses, hein. Peut-être qu'il y a des magnifiques relais ou autres que je n'ai pas vus, mais je n'ai pas l'impression de l'avoir vu une seule fois cette saison. Donc au lieu de monter en puissance, pour moi, il est plus rentré dans les rangs, et c'est une petite déception pour moi.
Oublié qu'il existait.
Mais voilà. Bah, ça en dit
C'est
long.
fou. Oui, ça
N'est-ce
en dit
pas?
long. C'est fou. Romain.
Je pars vers tout ailleurs. Je vais chez Movistar où j'ai pointé Pelayo Sanchez,
Oh.
le puncher. Oh, tu l'avais pris aussi peut-être
Non, pas du
ou...
tout, mais c'est un
Ah.
crève-cœur.
Ben oui, on va le dire, hein, c'était une des, si ce n'est la révélation du Giro 2024. Petit puncher asturien dans l'équipe Movistar. Qui était totalement transparent, enfin c'est même pas transparent en 2025. C'est-à-dire que si vous regardez, pour les habitués qui nous suivent sur le site de PCS, vous avez chaque fois les petites barrettes avec le nombre de points qu'on marque par saison. Ça donne une bonne idée de la progression ou de la régression. Et en me connectant dessus, j'étais surpris. Je me dis, putain, il a marqué tout ça, il a marqué plus de points que l'année précédente. Et en fait, non, il n'a pas marqué un seul point PCS en 2025, ce qui fait que le 20... 2025 n'apparaît pas. Donc en fait, en regardant plus près, il a marqué 3 points UCI sur la saison, en terminant à une anonyme 31e place au classement général des boucles de la Mayenne. C'est du reste la seule course qu'il a terminée la saison, puisque il a fait aucune course d'un jour terminée sur 9. Il était DNF sur Tirreno, sur le Tour de Suisse, après avoir été transparent. Je pense qu'il n'a jamais été plus proche que la 119e place sur ces courses-là. Donc voilà, une saison complètement loupée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de lui en premier? Parce que ça me permettait de parler d'un autre coureur. Donc je suis désolé, je triche un petit peu. Parce que voilà, je n'ai pas fait de procès d'intention du tout. C'est pas du tout ici une façon d'accuser quoi que ce soit, mais je peux quand même pas m'empêcher de penser à Oir Lazcano, qui a également fait une saison totalement transparente. On va peut-être en parler plus tard. Je me suis interdit de le mettre dans mon top 10, j'aurais bien voulu, mais voilà, il n'y est pas pour d'autres raisons qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il a été suspendu, en tout cas à titre temporaire pour l'instant. Est-ce que il s'est passé quelque chose de pas très 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 normal, pas très très joli chez Movistar pendant quelques années, qui pourrait effectivement avoir mis des coureurs au devant de la scène et puis des coureurs qui sont rentrés dans le rang de façon quelque part aussi soudaine que leur arrivée au sommet? J'en sais rien. Je ne le souhaite pas. Je dis, c'est vraiment pas ici un procès d'intention, mais voilà, malheureusement, ce sont des choses qui reviennent encore et toujours dans le cyclisme. Et donc, tout ça pour dire que Pelayo Sanchez, complètement à la rue en 2025, et c'est très dommage parce que j'aimais beaucoup ce profil de coureur.
Ouais, je suis allé voir aussi un peu ce qu'il avait fait pour voir si je devais le mettre ou pas. Moi, j'adore Pelayo Sanchez. Je peux pas m'empêcher. Alors, sur ce qui est Lazcano, j'ai j'ai tout de suite fait un parallèle, mais qui pour moi ne tient pas, dans le sens où il a couru. Je veux dire, Lascano, on l'a interdit de courir, c'était pas dit, mais voilà, on sait pourquoi. Pelayo, il a couru, donc j'ose espérer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, je ne l'ai pas mis non plus, parce que pour moi, quelqu'un qui enchaîne les DNF comme ça, c'est vraiment, il y a un vrai problème physique quelque part ou quoi. Et j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé, parce qu'on n'a pas toutes les infos, de mettre de côté ceux qui ont eu vraiment des très gros problèmes, qui pouvaient justifier des mauvaises saisons, etc. Donc en ça, j'ai écarté Pedro Sanchez. Mais j'étais allé parce qu'effectivement, ça m'a marqué cette histoire que tu as dit sur PCS. Je me suis dit aussi, mais en fait, oui, c'est à ce point-là, quoi. C'est vraiment catastrophique. Ok, moi je pars encore, mais alors vers totalement autre chose. Et vu que j'aime bien tricher, je m'étais dit, je triche une fois dans les satisfactions, une fois dans l'épisode déception. C'est à chaque fois au début, je donne deux noms et après, j'arrête de tricher. Et je vais faire comme la première fois où je vous avais dit Pidcock Pedersen, c'est un peu dans le même esprit. Ici, c'est dans le même esprit, c'est des très, 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 très bons coureurs qui font des très, 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 très bons résultats, mais ça me déçoit quand même. C'est Jonas Vingegaard.
Oh.
Jonas
Ouais.
Vingegaard, pourquoi?
Ça
Parce
fait
que,
plaisir.
ben, en fait, c'est assez simple et peut-être parce que j'étais totalement à côté de la plaque. Mais moi, Vingegaard 2024, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mis la chute du Pays Basque et la préparation tronquée dans ses résultats, je veux dire, comme critère important. Et là, avec une préparation complète, etc., tu te dis, bon, bah, fais de l'espoir. C'est bon, terminé. En fait, c'est la place de Vingegaard. Et donc, je ne peux pas dire qu'il régresse parce que dans la hiérarchie, enfin, quoique, il était plus ou moins devant Pogacar, enfin, ça se discute, mais. Voilà, il y a quelque part soit un déclin, soit quelque chose qui fait qu'il ne progresse pas. Et pour moi, c'est une petite déception quand même cette année du Danois. Et pour vous dire que dans le même état d'esprit, c'est peut-être encore pire ou peut-être pas, vous me direz ce que vous en pensez, c'est Demi Vollering. Et pourquoi je dis c'est peut-être encore pire? Parce que Demi Vollering, elle n'était plus numéro 1 à l'UCI, et maintenant elle est numéro 1 à l'UCI après cette saison. Donc moi, je vais chercher la femme qui devient numéro 1 à l'UCI comme déception de l'année. Pourquoi je prends Demi Vollering? Ok, elle devient numéro 1 UCI, mais au printemps, elle gagne l'Estrade et c'est tout. Elle ne gagne pas une autre course au printemps. Le Tour de France, qui est un autre objectif de Demi Vollering, elle ne le gagne pas. Et elle est même un peu limite. Les mondiaux, elle ne les gagne pas. Et en dehors du fait qu'il y ait une surprise, c'est un miracle qu'elle termine première de son groupe. On l'a vu en difficulté pendant la course. Donc à un moment donné. Quand c'est Demi Vollering, qui était tellement dominante dans le cyclisme, malgré qu'elle arrive à gagner une place à l'UCI, il y a une petite déception. C'était le transfert en plus cette année chez FDJ, donc on voyait peut-être, tiens, la domination maintenant va être chez FDJ. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu déçu par cette première saison de Vollering dans l'équipe française. Voilà, j'ai fait mon petit côté cyclisme féminin. Romain, non, c'est Alexis qui a la. Je vais pas encore donner la parole
Non,
à
non,
Romain
quand
comme dans
même,
l'épisode
attends.
précédent, ouais, pas à chaque fois. Alexis, je t'écoute pour
Bah
ton
écoute,
deuxième nom.
je viens de le changer à l'instant parce que tu me
Ouais,
rends compte que j'ai peut-être été un peu trop subjectif pour le 9e. Et donc là, je vais juste mettre un gars qui ne le mérite peut-être pas, mais dont j'attendais plus, c'est Alex Egart. Il n'a pas fait des résultats non plus ridicules, mais j'attends plus de lui, notamment à Paris-Roubaix. Il marque moins de points que l'année dernière. Il gagne moins que l'année dernière, vu qu'il a gagné l'année dernière et pas cette année. Donc voilà, c'est vraiment pas quoi que ce soit contre lui, mais voilà, c'est un coureur que j'apprécie justement, donc j'attends plus de lui. À son âge, en tout cas, Magnès, on s'attend à ce qu'il monte en puissance. C'est pas encore le cas pour le moment, donc un petit peu déçu.
Ouais, très bon choix. Moi, il était dans ma présélection.
Oui, également. Neuvième chez moi, c'est Marc Hirschi. Marc Hirschi, alors peut-être que certains vont trouver dur de le mettre dans un flop 10 de la saison. Mais voilà, c'est quand même un mec qui sortait de deux saisons assez remarquables avec UAE et qui a commencé sa saison avec une victoire pour son premier jour de course. Donc on s'est dit, ça y est, c'est lancé. Le gars arrive, c'est le Suisse dans une équipe hyper ambitieuse suisse. Il va être dans les meilleures conditions possibles pour bah, faire peut-être confirmer en tous les cas aller chercher quelque chose. Et au final, il fait des bons résultats. Il va chercher des points à gauche, à droite. Mais je trouve qu'on est quand même assez loin de ce qu'on était en droit d'attendre du Suisse. qui, ben, rappelez-vous, l'année passée, c'était la Classicoa, la Bretagne Classique. Il y avait toute une série de courses italiennes qu'il avait remportées également. Si on regarde les points PCS, hein, on a parlé ici avec Pele Sanchez, 9e sur la saison 2023, 4e sur la saison 2024, et là, au-delà du top 50. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu mieux marcher, on aurait pu attendre dans tous les cas que ça fonctionne mieux, d'autant que son équipe, Tudor, a quand même pas mal fonctionné hein, durant la saison. Donc voilà, j'attendais plus de Marc Hirschi.
Juste pour compléter tes chiffres, classement UCI, il passe de la 6e à la 56e place. Vous vous doutez que si je vous cite ça, c'est que j'en reparlerai dans l'épisode un peu plus tard. Mais je vais d'abord parler de mon 9e nom. Bon, j'ai choisi David Godu. David Godu, c'est saison catastrophe malgré le maillot rouge qui vient vraiment sauver une saison, mais où il n'y est pas. Du tout. David Godu a enchaîné, certes, les chutes. Je l'ai pris en compte. Hein. J'ai dit que j'allais essayer de penser à tout ça. Il a enchaîné les chutes en début de saison. Mais après, j'ai quand même l'impression, quand il revient, même sur le Tour de l'Ain, et d'ailleurs, c'était la même chose sur la Volta, au tout début, on pense que ça peut aller, et très vite, ça ne va pas. Et on ne sait pas pourquoi. Là, ce n'est pas une question des chutes. Il y a un problème. Le mal semble profond, et semble même profond mentalement, moi, j'ai l'impression. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à David Godu de quitter la Groupama et de changer d'air et de se ressourcer comme Romain Bardet a pu le faire quand il a quitté Decathlon. Et je ne dis pas pour autant que, il y a quelque chose de toxique chez Groupama, c'est pas du tout ça, mais je crois qu'il a besoin d'un changement. Et voilà, c'est pas quelqu'un, puisque c'est pas mon coureur préféré, il va pas être très haut dans ma déception parce qu'au final, bon, voilà. Ce qui arrive entre guillemets à David Godu, c'est pas méchamment, mais c'est pas le truc qui me touche le plus. Mais malgré tout, enfin, c'est quand même un coureur que certains surcotent, que certains sous-cotent, mais c'est quand même un coureur très très bon normalement dans la hiérarchie mondiale. Et là, il a passé la saison tel un fantôme. Donc, ouais, je pouvais pas m'empêcher de mettre David Godu dans mes flops. Alexis, on arrive au numéro 8.
Je vais spoiler que moi j'ai pas eu Marc Hirschi, j'ai hésité, mais voilà, je suis plus parti sur des coureurs dont je parle souvent, que j'aime ou que j'aime pas. Et puis entre les deux, il y a quoi? Il y a un gars que tu viens de citer, c'est David Godu.
OK.
C'est dur pour lui, hein, parce que comme tu dis, il a le maillot rouge, il a une victoire de dingue en fait, hein, devant Pedersen et Vingegaard, c'est fou. Mais à part ça, ben, ça reste un coureur de classement général. De grands tours, et sur ces deux grands tours, il fait 97e et 66e, donc son année, c'est un très très mauvais bilan. Donc voilà, dans mon top 10, sûr.
Et si ça reste pas un coureur, pardon, je me permets de réagir, parce que certains vont te dire justement, est-ce que c'est pas un problème que ce soit un coureur de classement général, mais alors il faut faire le choix de bifurquer vers autre chose.
Ouais,
Quoi
ouais,
qu'il
ouais.
arrive, ça ne suffit pas, quoi. Ouais.
C'est clair.
Romain, ta 8e place.
Alors c'est aussi un coureur pardon, classement généraux, c'est pas Godu, c'est Carlos Rodriguez, le coureur espagnol de Chineos. Alors là aussi, je pense qu'on pourra me taxer d'être un petit peu dur avec lui, parce que c'est un coureur qui est malchanceux depuis 2 ans, hein. Il chute beaucoup, encore cette année-ci, il chute sur le Tour de France, alors qu'il était 10e de mémoire, enfin il était en fond de top 10, mais c'est justement, c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai du mal en fait à imaginer qu'il y a pas si longtemps, 2 ans, 3 ans, on voyait en Carlos Rodriguez peut-être le futur vainqueur espagnol d'un grand tour, peut-être même encore plus qu'Ayuso. Hein, on le disait plus complet, plus meilleur grimpeur peut-être sur les longs cols. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on n'y croit plus du tout. Et on se dit, si le gars vient faire un top 10, c'est déjà pas mal. Il a fait quelques passes intéressantes. Mais il n'a jamais été en mesure de jouer la gagne cette saison. Et ben, je le disais, Tour de France, alors oui, il a chuté, donc il n'a pas terminé. Mais avant ça, il était en top 10 sur un tour qui pourtant devait lui convenir avec de nombreuses longues ascensions. Et malgré ça, il était transparent, alors qu'on a vu un de ses coéquipiers bien plus en forme que lui, hein, c'était Timen Arensman. Sur d'autres courses, on a vu d'autres gars, on en a parlé dans le précédent épisode, notamment Bernal. Qui était finalement en meilleur, qui fait un meilleur bilan de saison que Rodriguez. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai mis Rodriguez dans ce top 10, malheureusement.
J'aimerais bien que tu arrêtes de dire qu'on va te trouver trop dur à chaque nom, parce que chaque fois tu me mets des gars que j'ai mis bien plus haut dans mon classement.
Ah!
Donc moi je suis vraiment très 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 dur alors. Néanmoins, en numéro 8, j'ai mis un gars que je m'étais promis de pas mettre. Puis je me suis dit, ouais, mais. Alors, on va vraiment encore nous dire, vous êtes chauvin, les gars. Hein. Pas de déception belge. J'ai mis Maxime Van Gils. J'ai mis Maxime Van Gils et certains vont me dire qu'il devrait être beaucoup plus haut. Et je pense qu'en off, on a déjà un petit peu parlé, nous, de ça. Pas spécialement d'où le mettrait dans un classement, mais moi, j'ai tendance à beaucoup excuser Maxime Van Gils et je trouve que peu de monde rappelle tous les pépins qu'il a eu cette année. Il a eu beaucoup de maladies et de blessures. C'est ce qui fait que je ne vais pas le mettre plus haut. Et il y a ça qui fait que je ne vais pas le mettre plus haut. Et aussi le fait que quand il n'avait pas trop de problèmes, il y avait des ups. C'est-à-dire, oui, c'est pas Van Gils l'année passée, évidemment, avec tous les petits soucis qu'il a eu, mais quand Van Gins était au niveau, il a montré quand même que ça restait un très bon coureur. Il l'a montré en Norvège, il l'a montré en début de saison, il l'a montré sur la Classico A, il peut encore être là, il peut encore être présent. Donc, j'ai pas eu envie de, entre guillemets, descendre Maxime parce que je pense que Maxime, sans les problèmes, restera, alors peut-être pas niveau 2024 où on s'est dit c'est un des meilleurs punchers du monde. Enfin, il a sûrement fait la saison qu'il refera peut-être jamais. Hein. Mais. Je sais pas, moi je pense que c'est quelqu'un qui fera encore des très belles choses. Vous me direz, le concept de l'émission, on n'est pas du tout de dire que ces personnes-là ne performeront plus, mais je sais pas pourquoi. Cette année, je passe mon temps à essayer de défendre Maxime Van Gils en me disant, ouais, il a pas eu de bol, quoi, non plus. Je sais pas si c'est un inconscient, parce que moi je participais aussi à ça, de se dire, certains. Peut-être que je me trompe. Certains ont presque peut-être envie de s'en réjouir parce qu'il a quitté la loto d'une certaine manière et regardez, voilà, il s'est planté. Ouais, mais il n'a pas eu de bol non plus. Voilà, juste ça que je voulais dire. À vos têtes, je pense qu'on reparlera de Maxime Van Gils plus haut dans le classement. Alexis, on en arrive déjà à la 7e place.
Bah oui, bah, je vous précède à chaque fois hein, parce que comme Romain, tu viens d'en parler, moi j'ai mis Carlos Rodriguez. Je comptais même le mettre beaucoup plus haut parce qu'en fait, bah, tu l'as dit, on attend beaucoup de lui, on attend des top 5 sur un grand tour. Mais il a quand même eu deux fractures en 2025, dont une sur le Tour de France. Mais donc avant ça, ce Tour de France, tu l'as dit Romain, il était aux alentours de la 10e place, ce qui n'est pas sa place du tout. Il a eu une fracture de la clavicule en tout début de saison à l'UAE Tour, mais généralement une fracture de la clavicule début de saison, ça ne t'empêche pas de performer sur le Tour de France, honnêtement. Donc pour moi, ça reste une très grosse déception. Le fait qu'il n'ait pas pu faire la Volta ou la fin de saison, bon, je ne le mets que 7e. Mais voilà, c'est un coureur dont, comme tu l'as dit Romain, on attendait des top 5 sur le grand tour ou mieux, hein. Donc voilà, grosse déception pour ma part.
Romain, ton 7e homme.
Eh bien, c'est Matej Mohoric.
Ouais.
J'ai trouvé sa saison totalement transparente. Lui qui a l'habitude d'animer les classiques. C'est-à-dire qu'il y a les résultats, effectivement, qui ont manqué, mais même dans l'animation des courses, on ne l'a pas vu. Son meilleur résultat sur le printemps, c'est 21e sur le Ronde. Et entre l'Omloop et le Grand Prix de Gippingen, qui est un petit peu cette course entre guillemets ardennaise en Suisse, qui referme finalement le printemps, c'est 13 jours de course, 5 abandons et 35 points UCI. C'est très maigre, d'autant qu'il y en a 30 sur le Ronde avec cette 21e place. Donc voilà, c'était un printemps complètement transparent, raté, il faut le dire, pour Mohoric, qui s'est légèrement repris en fin de saison avec une 5e place à Québec. C'est son seul résultat un petit peu notable. On en oublierait presque qu'on l'a vu, malgré tout, avec les meilleurs. C'était sur l'étape de la butte de Montmartre, sur le Tour de France. Mais une étape courue dans des conditions très particulières, de temps gelé, peut-être aussi de l'envie d'aider son copain Pogacar à aller la remporter. Donc voilà, c'est très étonnant. Je note que à l'heure où on enregistre ce numéro, il n'a toujours pas de contrat pour 2026. Il n'a que 31 ans. Hein, ce n'est pas non plus un vieux de la vieille. Donc voilà, je m'interroge sur ce qui se passe avec Matej Mohoric. C'est peut-être aussi un lien de cause à effet, le fait qu'il n'y ait pas de contrat, les mauvais résultats, ou les mauvais résultats, le fait qu'il n'y ait pas de contrat. On sait aussi que c'est un coureur qui est en train de se passionner pour le gravel. Est-ce qu'on va voir le Slovène quitter le peloton pro pour aller vers le gravel? Enfin, quitter la route pour le gravel. Voilà, c'est une fin de saison qui, à l'image de l'ensemble de sa saison, est pleine de questions.
Je suis d'accord. En numéro 7, moi je reste avec mes hommes de classement généraux, sauf que je venais de parler de Van Gils, mais avec les hommes qui grimpent, en tout cas, je vais parler d'Antonio Tiberi. Antonio Tiberi, son seul, alors par résultat, le seul truc que je peux sortir plus ou moins du lot, c'est une deuxième place en Pologne. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors certains vont me dire, oui, il a aussi fait troisième de Tirreno. Oui, derrière Philippe Ogana. Calmez-vous, les gars. Un truc où il fallait rouler. Hein. Non, non, mais voilà. Alors oui, il a chuté sur le Giro. Ok, voilà. Encore une fois, j'avais essayé de préciser tous les éléments, en tout cas, que j'ai pu essayer de recouper. Mais globalement, c'est quand même un coureur qui a été un peu révélé, enfin, un peu, ouf, mais très fort révélation l'année passée. Et moi, je voulais voir Tibéri qui continue et qui confirme un minimum. Et c'est un mec, au départ d'un grand tour, ben, on se dit, ouais, c'est un podium. Enfin, pas ce Tour de France avec tous les meilleurs, mais ouais, c'est minimum un podium, quoi. C'est un des mecs qui est vraiment derrière les tout meilleurs. Et finalement, ben, saison à oublier. Et j'espère qu'on verra un tout autre Tibéri en 2026. Alexis, on en arrive à la sixième place.
Ouais, bah, écoute, moi, ma sixième place, c'est pas quelqu'un où lui-même m'a déçu, c'est plus la situation qui me frustre. C'est Lorenz De Plus. Voilà, une fin de saison après le Tour de Suisse sans qu'on sache pourquoi. Pas de blessure répertoriée, voilà, mais apparemment des problèmes récurrents. De plus, ça fait des années que j'attends beaucoup de lui parce que c'est vraiment un super grimpeur, j'en suis persuadé, mais malheureusement, je pense qu'on n'a jamais vraiment pu voir. À quel point on n'a jamais vraiment pu voir l'étendue de ses qualités. Et c'est vraiment à ce titre-là que je le mets en déception. C'est plus une déception personnelle. Je suis déçu, pas de lui, mais de ne pas pouvoir profiter de ses super qualités de grimpeur, même si, il y a sûrement des raisons qu'on ne connaît pas.
Romain.
Alors je remonte toujours et un autre grimpeur, un
Ne
grimpeur
dis pas que
russe,
t'es trop
Alex.
dur,
Non, non, non,
hein?
Alexander Vlasov. Là, je suis pas trop dur, je pense, pour Vlasov qui, voilà, c'est pas un coureur que j'attends particulièrement, que j'apprécie particulièrement, mais on sait que dans cette équipe Red Bull Bora, la division Grand Tour ou en tout cas course à étapes a été, il y a une sorte de révolution, hein. Roglic, on en parlera peut-être plus tard, voilà, n'a pas apporté ce que sans doute on espérait chez Red Bull. Mais alors, Vlasov, c'est une catastrophe. Son meilleur résultat, c'est 17e sur le Tour de la Communauté Valencienne qu'il avait remporté il y a de ça quelques années. Il n'a fait en fait que des résultats, à part ça, au-delà de la top 20, enfin, au-delà du top 20, pardon, sur les courses par étapes. Et en fin de saison, on se dit, bon, ben, on va le mettre sur les courses italiennes d'un jour. Voilà, il en a fait 7. Je pense qu'il ne fait pas mieux que 19e. Donc, une année complètement transparente pour quelqu'un qu'on aurait normalement pu, dû en tous les cas, je trouve, voir. Alors, je ne dis pas qu'il aurait gagné quelque chose, mais en tout cas, sur des courses comme Paris-Nice, comme Itzulia, la Romandie, la Suisse, c'est un gars qui doit faire systématiquement top 10. Et ben, on ne l'a pas vu.
Je me permets de réagir parce qu'il était dans mes noms à citer. Et en fait, juste avant cet épisode, pour tout dire aux auditeurs, j'ai évoqué un nom, sans vous dire qui. C'est un gars qui était dans mon podium déception, qui est descendu au fur et à mesure, descendu, descendu, et qui est sorti de mon top 10 uniquement parce que j'ai aucun affect avec ce coureur et aucune vraie attente. Bah, c'était Vlasov. Et du coup, Vlasov, moi j'ai noté, en plus de ce qu'il a dit, même tout compris, toutes les étapes et tout ça, il n'a pas une fois fini dans les trois premiers d'une course. Et il a perdu 308 places UCI cette année. Il se retrouve 334e au classement UCI. Voilà. Alors pourquoi je ne l'ai pas noté? Ben j'ai mis entre parenthèses, si je devais expliquer Vlasov en une ligne, j'en attendais rien, mais il a quand même réussi à me décevoir. Pour moi, ça résume la saison de Vlasov. Alors, ben, du coup, je vais vous donner mon sixième nom. Mon sixième nom, c'est un coureur qui était presque fantastique. C'est Ben O'Connor. Où est passé notre
Ah.
fantastique?
Ouais.
Il a gagné une belle étape, c'est vrai, sur le Tour de France. Sur les classements généraux, je vais reprendre un peu comme toi, Romain, j'ai noté que son meilleur résultat sur le classement général, et je me demande si ce n'est pas son seul top 10, mais à revérifier, c'est une septième place sur le Tour de Suisse. Un Tour de Suisse où bon, la concurrence était ce qu'elle était, un Tour de Suisse où il avait réussi à piéger plusieurs favoris sur la première étape en prenant une échappée, où honnêtement, il avait une grosse minute de retard sur Vauclain, où on se disait, bah, ça va être match entre Vauclain et O'Connor. Parce que dans les grands noms, franchement, c'était O'Connor qui devenait le favori. Il termine septième finale. Donc pour moi, son meilleur résultat est le meilleur symptôme de sa saison ratée. En fait, c'est un peu bizarre, hein, mais voilà. O'Connor, il n'y a pas si longtemps, alors je dis fantastique, on rigole évidemment hein, en disant ça, parce qu'après sa saison assez phénoménale L'année passée, bon, on le plaçait certainement trop haut. Je n'ai pas les attentes de Ben O'Connor pour qu'il refasse une deuxième place comme il a fait, ou même vice-champion du monde. Ou... Ce n'est pas ces attentes-là que j'ai. Mais malgré tout, Ben O'Connor, au départ d'un grand tour, c'était, je sais pas, top 5. On se disait, ouais, c'est un gars qui peut aller chercher le top 5. Sur le Giro 2024, c'était quand même un des gars qu'on citait, par exemple. Et puis, bah, au final, là, cette année, un peu patatras, quoi.
Ouais.
Voilà.
Non, t'as raison, c'est intéressant, j'ai pas pensé à lui, mais c'est vrai, peut-être parce que je le vois plus comme un gars qui anticipe ou autre, mais il mériterait d'être dans ce top 10, c'est vrai. Par contre, je vais vous faire deviner mon cinquième.
Tu vas nous faire deviner,
En
Attends.
quiz.
Donc
On suit le même
tu as repris Vlasov, ouais,
Vlasov, oui,
voilà.
comme à chaque fois, je dis un nom juste après vous. Et en fait, mes notes dans mes petites préparations sur Vlasov, bah, c'est à l'image de sa saison, le néant, j'ai rien noté. J'ai rien noté parce qu'il y a rien, il y a rien à se mettre sous la dent. Et en effet, comme toi, Damien, moi, je l'avais mis deuxième. Au dernier moment, j'ai fait remonter à la cinquième place, aussi pour une question d'affect et d'attente. Mais c'est une descente aux enfers, quoi. Alors, il va chercher un maillot à pois. Je crois en Suisse, mais à part ça, rien du tout, rien du tout. Alors que il fait une super saison l'année passée en termes de points ici, en tout cas, et là, rien du tout. Je crois qu'il prend 200 points maximum, donc en points PCS en tout cas. Donc vraiment le néant. Et ouais, clairement, pour moi, une grosse déception.
Il fut un temps où on pensait que Vlasov pouvait faire un podium
Bah ouais.
sur un grand tour ou sur un Tour de France. On en parlait vraiment incroyable. Hein.
Ouais, comme quoi.
Oui, et je pense qu'on a fait parler aussi de lui en début de saison, comme se demandant s'il n'avait pas atteint son plafond de verre. Je me demande si Alexis n'avait pas abordé cet aspect-là. Donc oui, bah, il a pété son plafond de verre, il est tombé avec et s'est pris des morceaux dessus, quoi. Bon, on est dur, mais ce qui n'est pas trop le ton du petit plateau, mais voilà, en même temps, c'est vrai que on pourrait difficilement ne pas l'être davantage, enfin moins avec cette saison.
Après, on peut se demander s'il y a une raison qui explique cela. Moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien lu à son sujet, donc je sais pas. Romain, je te propose de continuer avec, ben donc, si je ne me trompe pas, on est déjà à la cinquième place.
Ouais.
Oui, et on va rester chez Red Bull. J'ai choisi cette fois-ci quelqu'un du pôle classique, c'est Lawrence Pitti, qui nous montre en fait simplement que la confirmation, c'est toujours le plus difficile que la révélation. Et c'était le cas avec Lawrence Pitti. On l'avait vu au printemps l'année passée, c'était vraiment une des, si ce n'est la révélation, je trouve, du printemps sur les pavés, notamment son Paris-Roubaix qui avait été fantastique. Et donc, peut-être qu'on en attendait trop, enfin que moi j'en attendais trop, c'est possible. Alors, je n'avais pas gagné un monument, encore moins, enfin pas classique non plus, mais au moins, sans faire de résultats probants, d'animer les courses. Et je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il a couru. Je ne pense pas qu'il ait fait un top 10. Si, je pense qu'il va faire un top 10 sur. Je crois deux étapes du Tour de l'Allemagne et une étape du Critérium. Mais au printemps, ce n'est pas un top 10. Et donc, c'est beaucoup trop léger pour quelqu'un qui devait être le co-leader finalement de Red Bull au niveau des classiques printanières, en tous les cas au niveau des Flandriennes. Sachant que l'eau, c'était Lazcano. Ben voilà, faillite totale des transferts et de Red Bull pour les printanières.
Vite à copier sur moi, c'est pas possible. Et le numéro 5, ça nous réussit bien. Hein. On avait tous les trois numéro 5 pour le manier là. Là, mon numéro 5, j'ai Lawrence Pitti. Et je sais qu'Alexis, je sais pas s'il aura Lawrence Pitti, mais puisqu'il nous a fait un petit truc pour le grimpeur, il va nous sortir un petit truc pour le classique Red Bull d'ici la fin de l'épisode.
J'ai hésité.
Non, j'ai Lawrence Pitti et en plus, je dis t'as copié sur moi parce que il y a un truc que tu as dit, c'est peut-être que j'avais des trop grosses attentes. J'ai noté sur ma feuille, ma hype était sûrement un peu trop grande aussi. Donc tu vois, on se retrouve là-dessus. Après, j'étais un peu plus sec avec Lawrence Pitti, mais c'est pas grave parce que lui, il est comme ça aussi. J'ai noté notamment aussi décevant que dangereux sur son vélo, parce que y a ça aussi. En dehors des résultats, c'est un fou dangereux ce gars en fait. Je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Lui et son copain Van Poppel, ils font un beau duo qui peut vraiment foutre des mecs, des collègues à terre Et je pense quand même que voilà, c'est vrai que c'est pas trop notre ton d'habitude, mais j'ai envie de souligner ça parce qu'au final, c'est pas ça qu'on veut dans le cyclisme. Et alors, du coup, j'avais aussi mis Mathieu Van Der Poel le cherche toujours, il regarde, parce que si vous vous rappelez, Laurens Pitti a dit, moi je veux challenger Mathieu Van Der Poel sur les monuments. Lorenz, on t'attend, on ne sait pas. Voilà. Alexis, je te cède la parole.
Je vais risquer de me perdre et je vais totalement chambouler mon top 4 pour pas ne faire que vous répéter. Et je vais mettre en quatrième pour commencer, je
Pipi
vais mettre
remonte.
voilà, je vais mettre Tibéri en quatrième. Je sais pas pourquoi je l'avais mis premier de base, parce que alors que
Ah
j'ai pas
ouais.
d'affect pour lui, hein, mais j'attends, je sais pas. Ouais, c'est quelque chose qui se contrôle pas. On a des attentes en début de saison. On se dit, tiens, lui, je le vois faire ci, je le vois faire ça, sans qu'il y ait forcément de raison que lui soit classé plus haut que l'autre dans nos attentes. Tibéri, je le voyais vraiment aller faire des podiums de Volta ou du Giro. Or, il fait 41e de la Volta et 17e du Giro. Donc, saison quand même très compliquée pour lui. C'est évidemment compliqué de connaître l'historique de tout le monde, de savoir s'il y a des circonstances atténuantes, des blessures ou autres. Mais lui, il n'y a pas de blessure répertoriée. Voilà. Alors, grosse déception, alors ça m'attriste pas plus que ça, mais voilà, en termes de résultats, grosse déception, je trouve.
Romain.
Ouais, au pied du podium, il est longtemps resté dessus, mais j'ai mis Andreas Krohn, le
Ah
Danois
ouais.
de chez UnoX. Il a peu couru et n'a jamais donné l'impression de pouvoir retrouver son niveau qui était le sien chez Lotto il y a 2 ans, où il avait été honnêtement parmi les 8-10 meilleurs Ardennais du peloton. L'année passée, c'était déjà compliqué chez Lotto avec l'émergence d'un Van Gils, voire même d'un Van Aertvelt. Il y avait eu aussi, je pense, des blessures ou des maladies. Mais ici, voilà, on se dit, le mec doit se relancer dans une équipe qui a marché du tonnerre, UnoX, une équipe scandinave, donc dans laquelle il pouvait ne pas être mieux finalement. Et oui, il fait 12e de la Classicora. Et puis c'est tout. Et donc, voilà, très étonné. C'est plus qu'une déception, c'est un étonnement en fait de voir qu'il n'a pas réussi à relever la tête. J'attendais pas forcément qu'il aille gagner Liège-Bastogne-Liège, évidemment, mais enfin qu'il aille faire des top 10 sur ce genre de course. Il en est capable, il l'a déjà fait par le passé, et là on ne l'a absolument pas vu. Et voilà, je suis triste en fait pour le gars, je suis un peu déçu du coup, pas enfin, beaucoup déçu.
Il n'est pas dans mon top 10 et pourtant je l'ai envisagé direct quand on a dit de faire l'exercice top 3. Et puis vu qu'il n'avait pas beaucoup couru, je me suis dit à mon avis j'ai dû louper des infos, il y a des circonstances. Voilà. Et je t'avoue qu'après il m'est un peu sorti de la tête et j'ai pas plus cherché que ça. Mais oui, très clairement, c'était
Non, il
un
mérite.
transfert un peu hyper en plus. En numéro 4, je vais pas m'attarder parce que bah, c'est Marc Hirschi. En fait, Marc Hirschi. C'est un peu l'inverse de Vlasov. Je ne l'avais pas mis au début parce que c'est aussi un gars où j'ai pas d'énormes attentes. Et puis j'y ai repensé. Et puis j'ai écouté Radio Fragal, un truc que vous pouvez écouter sur YouTube où ils font des trucs sympas. Où ils analysent eux ici la déception. C'était pas tout un top 10. Il y en a un qui a mis Hirschi comme sa plus grosse déception de la saison. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, je me dis, ouais, c'est vrai quand même. Je rejoins un peu ce que tu as dit, Romain. En plus, il y a un projet, enfin, il y a un changement d'équipe où il se libère de ses chaînes, quoi. Et au final, oui, il fait quelques petites placettes sur des petites courses, entre guillemets. Mais bon, si c'est pour faire ça, il les gagnait chez UAE. Donc, tu vois, non, ce qu'on voulait, c'est revoir le Hirschi qui pouvait jouer avec, alors pas avec Pogacar, mais faire des vraies belles places sur des Liège-Bastogne-Liège, des Amstel, enfin j'en sais rien, revoir vraiment du tout 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 bon Hirschi. Et en vrai, ouais, c'est un plantage absolu. Il est censé porter l'équipe et il n'a rien porté du tout. Comme je disais, il est passé de la 6e à la 56e place au niveau UCI. On l'a quasi pas vu. Et ça rajoute ce que tu disais, c'est qu'en plus, il commence bien la saison. Donc on se dit, waouh, génial, on va avoir Hirschi qui est parti de chez UAE, ça va être cool, quoi. Et puis patatras. On arrive au podium, et je te
Ouais.
donne la parole, Alexis, pour ton premier nom sur le podium.
Bah, pitié du coup, hein, troisième pitié. Voilà, il n'était pas censé être sur le podium de base, mais c'est vrai que pour moi, il était clairement top 5 d'office, parce que pitié qui va chez Bora, c'est une immense promesse. Et a priori, il n'a aucune circonstance atténuante, si ce n'est peut-être l'adaptation à une nouvelle équipe qui, voilà, il faut bien l'avouer, j'en parle beaucoup, n'a pas du tout performé sur les classiques. Mais tout de même, hein, Pitti, comme je le dis, en 2024, il était plein de promesses. Il fait une saison de classique de fou, même si au final, ça ne se traduit pas du tout en résultat. Cette saison, il n'y a ni les résultats, ni le niveau. Donc, il reste vachement en dessous des attentes. Et comme je disais, en allant chez Bora Red Bull, on espérait justement qu'il gagne ce petit truc en plus pour aller chercher des belles places. Mais voilà, faudra réessayer l'année prochaine parce que là, on n'y était pas du tout.
Romain, sur le podium, on trouve
Alors,
qui chez toi?
je vais pas me faire que des amis outre Quiévrain. C'est un Français et c'est parce que je l'ai vu, je pense, trop vite, trop beau. C'est Paul Penouette, le sprinteur français. En fait, je pensais sincèrement que le garçon pouvait être ce mec qui allait titiller les tout meilleurs. C'est-à-dire pas être au même niveau que Merlire, Milan, peut-être un peu en dessous, un Coy ou un Philipsen, mais je voyais bien le mec venir mettre son nez là-dedans. En fait, je voyais Paul Penouette faire une saison à la Paul Magnier. Et alors Paul Magnier n'a pas forcément performé sur ces courses-là, mais je voyais vraiment le mec faire, pas dire une razzia, mais être l'homme à battre sur la Coupe de France. Dans toutes ces petites coupes, toutes ces petites courses, pardon, des 1.1 qu'on trouve partout. Et en fait, il n'a pas levé les bras une seule fois. Pour un sprinteur, c'est toujours compliqué. Il a eu quelques beaux résultats malgré tout, quelques accessits. Mais voilà, je m'attendais à ce que ce soit nettement plus flagrant comme évolution. Et alors, le fait de le mettre si haut dans le classement, c'est aussi vraiment un ressenti tout à fait personnel. Je n'en veux évidemment pas du tout aux garçons, mais dans tous les petits jeux-jeux qu'on peut faire, vous savez, sur l'épopée, sur Rivals, Manager et machin comme ça, je m'étais dit en début de saison, mais c'est une bonne pioche à tous les coups parce que c'est un coureur qui avait montré de très 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 belles qualités l'année passée, mais qui avait encore été. Très jeune évidemment, et donc il avait encore été mis seulement sur certaines courses. Et là, je m'étais dit, le mec, on va pas le mettre tout de suite sur les toutes grandes courses, ça ne sert à rien, on va le mettre sur des 1 point, etc. Et c'est ce qui a été fait, mais il n'a pas performé. Et je suis convaincu qu'on va le voir. C'est un gars qui est bourré de qualité, qui va très vite, et qui a eu quand même pas mal de chutes aussi. Donc je suis convaincu qu'on va le voir à un niveau nettement meilleur l'année prochaine. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est une année presque perdue, entre guillemets, dans la progression assez, comment je vais dire ça, logarithmique. Enfin, vraiment, je voyais vraiment une évolution décoller à la Magnier, à la Brennan, qui sont des noms qu'on a cités dans le précédent podcast sur les bonnes surprises. Et bah, ici, voilà, ce n'était pas le cas. Et donc, pour moi, c'était une évidence de mettre dans le top 3, mais une évidence qui est toute personnelle. Et je répète, j'en veux pas aux garçons comme je pourrais en vouloir à beaucoup d'autres.
Il est dans mes 5 non bonus. Il était dans mes 5 non bonus et je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Et en fait, ce que tu dis, l'année prochaine, certainement, ça va aller mieux. Moi, j'ai tout en décalage d'un an. C'est cette année que j'attendais que ça aille mieux, puisque
Mais oui.
l'année passée, il avait eu des pépins au début de saison, etc. Et où moi, je croyais vraiment beaucoup, beaucoup en lui. Donc, je me retrouve assez dans ce que tu as dit. Et effectivement, tout de suite, j'ai pensé, peut-être pas pour l'année, mais Razzia Coupe de France. Ça coulait de source pour moi. Et ben non. Donc voilà. Mais après, oui, c'était que dans mes non bonus. Je l'ai un petit peu épargné. Comme ça, les Français ne nous tomberont pas totalement dessus non plus. Moi, en troisième, bah, de nouveau, je ne vais pas être très long, puisqu'on arrive à Carlos Rodriguez. Alors oui, j'ai dit, ceux qui ont des circonstances atténuantes, je vais les regarder. Oui, ok, il a chuté, mais Alexis, t'as tout dit. Une clavicule en février, ça n'explique pas une saison comme ça derrière. Et voilà, et en plus, bah, vous le savez, je l'adore, Carlos Rodriguez. Donc moi, j'ai envie de voir du bon Carlos Rodriguez. Et là, je veux dire, l'année passée, elle était, pour moi, elle était décevante, avec des résultats peut-être un peu en trompe-l'œil, parce que les résultats n'étaient vraiment pas dégueulasses au final. Mais il faut se rappeler quand même que début 2024, en tout cas avant le Tour de France 2024, pour moi, le favori à troisième place, c'est Carlos Rodriguez, c'est pas Remco Evenepoel. Et ben, c'est la descente aux enfers. Vous avez parlé ici, il était dixième avant son abandon. Ouais, il était dixième aussi grâce à une ou l'autre échappée. À la pédale, il n'était même pas top 10 hein, de ce tour. Et c'est, je me rappelle, j'en ai parlé dans l'épisode, d'un côté, c'est un truc qui me plaît chez lui. Hein. Donc il va en échapper alors qu'un gars qui, normalement, à ce niveau-là, pourrait se dire, putain, j'ai pas le niveau, c'est bon. Il a continué à se battre. J'aime vraiment beaucoup Carlos Rodriguez. Mais je sais pas si j'en viens à m'inquiéter, mais j'espère en tout cas que ça ira l'année prochaine, parce qu'une baisse de niveau sur 2 ans, même si c'est un garçon qui chute beaucoup, voilà, c'est quand même toujours un peu inquiétant. Ils ne rajeunissent pas. Il y a toujours des jeunes en plus qui viennent et qui poussent derrière. Donc voilà, j'espère qu'on reverra du très bon pour l'Espagnol. Nous voilà sur la deuxième marche du podium. Alexis, qui a failli être le grand vainqueur des déceptions, mais ne le sera pas chez toi.
Bah non, justement, mes deux premiers n'étaient pas du tout aux deux premières places avant le début de l'émission, mais pour pas trop me répéter par rapport à vous, j'ai fait trop de changements. Donc le nom, donc ici je vais être très dur parce que le nom que je vais donner n'était pas sur le podium de base. C'est Maxime Van Gils. De base, je l'avais pas mis sur le podium parce qu'il fait quand même une belle troisième place sur la Classico, qui en soi un très bon résultat. Mais j'avoue que moi, je n'avais pas noté tous les problèmes qu'il a eu, dont je ne suis pas au courant. Peut-être que si je l'avais été, je ne l'aurais pas mis aussi haut. Mais voilà, c'est un peu comme Pity. J'attendais beaucoup plus de lui. J'attendais qu'il passe encore un step parce que l'année passée, si on se dit, tiens, il est chez Lotto et qu'il passe chez Bora, on peut s'imaginer à ce que sur les Ardennaises, il soit top 3 quoi, quasiment. Tu vois? Or, il prend 5 fois moins de points ici que l'année dernière. 5 fois moins, c'est absolument énorme. Donc voilà, moi je l'imaginais capable de rivaliser pas avec Pogacar évidemment, pas avec un grand Remco non plus, mais avec les autres pour un podium sur les Ardennaises. Or c'est pas du tout le cas, donc c'est pour ça que je l'avais mis ouais, dans le top 5, voire 4e, je pense que je l'avais mis de base.
Ouais, après, c'est vrai que c'est son discours, sa raison évoquée pour quitter Lotto, c'est justement que chez Red Bull Bora, il y a plus, c'est plus professionnel, il y a plus d'encadrement, etc. Donc ça rejoint totalement ce que tu dis, hein. C'est parce que moi, je me dis, est-ce qu'il n'avait pas fait déjà une saison de sa vie qui ne peut pas juste égaliser? Mais quand toi, tu dis, on peut en attendre plus, bah, lui-même en attendait plus. Donc tu as tout à fait raison, évidemment.
Ouais, c'est mon numéro 2 aussi. Donc voilà, on est raccord, même s'il y a une construction. Et c'est vrai que. Alors, je ne suis pas sûr que. Enfin, ça tombe sous le sens, mais je ne suis pas sûr que quand il soit parti de chez Lotto, il dit c'est parce que c'est plus pro là-bas. C'était plus alléchant, certainement, dans le côté pro aussi. Je pense que c'est une fois qu'il est arrivé sur place qu'il a vu. Hein, on avait notamment monté en épingle cette. Quand je dis on, c'était vraiment ce petit plateau, et moi en particulier, monté en épingle le fait que, arrivé chez Bora, il disait ben voilà, quand vous avez terminé votre stage, il y a le masseur qui attend sur le divan que vous rentriez, alors que chez Lotto, il y avait un mec pour toute l'équipe. Et c'est vrai que du coup. Oui, il y a eu des blessures, il y a eu des maladies, etc. C'est vrai, mais on est passé d'un mec qui potentiellement pouvait rivaliser avec Pogacar sur certaines courses à un type qui a fait Amstel, abandon, Flèche Wallonne, 43e, Liège-Bastogne-Liège, abandon. Et rappelez-vous, en tout début de saison, je pense que c'est en début de saison qu'on disait, tiens, à Kigali, on emporte qui? Bon, on emporte Van Gils, hein. Van Gils peut être même encore meilleur qu'Arthur Remco dans le clan belge, parce que moins attendu, etc. Ben ici, il n'était même pas sélectionné, et on comprend pourquoi. Et c'est vrai, il a eu quelques résultats, il va quand même chercher une ou deux victoires en cours de saison, mais voilà, je trouvais que. Et du coup, je me suis senti visé par Damien tantôt, mais.
Ah non, non.
Je l'avais mis 6, 7e, je sais plus. En fait, non, pour être tout à fait franc, il n'était pas dans mon top 10 à la base. Et c'est en le repréparant pour cette émission, ou en allant rechercher sur je ne sais plus quoi, je me suis dit, ah, mais ouais, mais Van Gis, mais évidemment, c'est top 10. Et donc, je l'ai mis 9e, 8e, 7e, 6e. Et puis, en fait, au final, je l'ai mis 2e en me disant, je ne sais pas s'il vaut 2e, mais parce qu'il a quitté Lotto en cassant son contrat qu'il avait signé 3. Donc voilà, je suis rentré
Ouais.
dans ce jeu-là aussi, où effectivement, il a voulu faire le malin, entre guillemets, avec son équipe. Et au final, ben, il a montré à son équipe que son équipe, je ne vais pas dire, avait bien fait de laisser partir, mais son équipe a gagné 2 millions d'euros. Et puis voilà. Alors évidemment, on aurait peut-être bien aimé une 43e place à la Flèche Wallonne pour Lotto, hein, je ne le
Ouais.
dis pas. Mais voilà. D'un point de vue, de nouveau, c'est un top 3 qui est très personnel, qui n'est pas forcément axé sur vraiment purement les résultats ou autres. Je suis très déçu de la saison de Maxime Van Gils dans son ensemble.
Tu parles de sélection belge, ben moi, à la limite, c'est justement là où je suis le plus déçu. Du coup, je confonds un peu les deux, mais je suppose que c'est le championnat d'Europe, du coup, qui était sélectionné, où je me suis dit, puisque là, les soucis étaient terminés, qu'on l'avait revu sur la Classico A faire un bon résultat, je me suis dit, c'est une carte intéressante, et il n'a rien montré. Et là, par contre, j'ai été déçu. Parce que là, pour moi, il n'y avait plus trop de soucis, et donc le niveau, il n'était pas bon, quoi.
Ouais. Non, non. Alors oui, effectivement, j'avais même oublié qu'il était sélectionné. Non, non, vraiment, c'était en début de saison quand le parcours de Kigali était dévoilé.
Oui.
Je me souviens m'être fait la réflexion avec vous, mais c'était peut-être en off, en dehors d'un épisode, mais où on s'était dit, là-dessus, on doit partir avec deux leaders, et ce ne sera pas Remco et Van Aert, parce que Van Aert, ce sera un peu court. Par contre, Van Gils, vu la forme qu'il vient de faire en 2024, il peut franchement prétendre un rôle de leader. Et donc, ben voilà, 12 mois après, on n'y était plus du tout, quoi.
Ouais,
C'est
clairement.
clair.
En numéro 2, on est dur avec les gens qu'on aime, je vais rester en Belgique. Qui est donc ma déception numéro 2?
Ah, je crois que je
C'est
sais.
Lotte Kopecky.
Ah non! Il nous a ressorti une femme. Bon
Alors,
ben, deuxième femme après Demi
après les
Vollering.
Mulling. Alors, Lotte Kopecky, elle est deuxième, elle gagne un round, ça va, il y a pire. Non, mais Lotte Kopecky, elle est 25e UCI. C'était la femme qui marchait un peu sur le cyclisme. Bon, j'exagère un peu, qui marchait un peu sur le cyclisme, mais. Et voilà, en fait, Lotte Kopecky, ok, il y a le début de saison où elle prend le round, et puis c'est un peu tout. Même Liège-Bastogne-Liège, ok, je crois que c'est cinquième, je suis allé voir avant. Oui, ok, dans les chiffres, sauf que dans l'idée, elle se transformait pour pouvoir jouer un Tour de France, etc. Lotte Kopecky, déjà sur Liège, doit être mieux que ça. Et puis ça s'est enchaîné, ça a été déception sur déception, au point de ne pas être à Kigali. Et franchement, elle a eu raison, hein. Enfin, elle n'y aurait rien fait, mais quand même, quand tu as la double championne du monde qui ne va pas au championnat du monde, bah, ça montre un peu quelle est sa saison. Et en fait, je la mets très haut parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas chute, maladie, etc. Elle a un gros problème, elle l'a dit elle-même, elle ne comprend pas trop. Il y a un ras-le-bol peut-être un peu mental. Enfin, ça n'a pas été. Il faudra tourner le bouton et je lui fais confiance pour qu'elle le fasse. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de vraies excuses, que c'était la saison de la transformation, que c'était la saison où elle est libérée d'Amy Vollering, où ça devenait la star, entre guillemets, de l'équipe, même si, bon, quant à Lorena Wiebes, on ne peut pas dire que tu n'es qu'une star dans l'équipe, évidemment. Mais voilà, ça devait être elle qui devait porter l'équipe, et c'est quand même un vrai beau petit flop. Alors c'est peut-être dur, hein, parce que 25e ECI est presque déception de la saison. Mais c'est tellement, en fait, Lotte doit être, enfin, doit nous habituer à mieux, en tout cas. Et j'attends tellement de choses de Lotte Kopecky que voilà, je pouvais pas m'empêcher d'être quand même vraiment déçu par sa saison. Et on arrive au grand gagnant. Et alors là, avant que vous donniez vos noms, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va sortir? Parce qu'il y a un nom que ben, mon top 1 qui n'est pas encore sorti chez
Moi, j'ai
personne. Et
très
je me
peur.
dis,
Hein.
mais
Moi
est-ce
non
que je suis
plus.
trop dur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On va me massacrer dans les commentaires.
On
Du
a
coup, je vais.
peut-être le même.
Vas-y, vas-y, je vais
Non,
freiner, j'allais
vas-y.
dire, à moins qu'on ait tous les mêmes. Non, non, je vais continuer le petit tour, comme ça je me
Peut-être.
sentirai mieux. Peut-être je peux changer au dernier moment, ou...
D'abord la
Oui, Romain, vas-y.
nationalité, peut-être, tu vois.
Bon, si j'ai la
D'abord pourquoi?
nationalité, c'est cadeau.
Ah, ok. Bah alors non.
Allez, vas-y, Alexis,
Je
on...
t'avoue, Damien, j'ai très peur d'être, qu'on me dise, mais t'es complètement fou, mais voilà, c'est de l'affect. Je
Ah,
suis peut-être
mais
trop dur.
oui! Mais toi, je connais un peu ton affect, c'est peut-être possible, peut-être, vas-y.
Qu'on est le même?
Ouais.
J'ai mis Thibonais.
Oh merde. Non. Ah
Toi
oui,
aussi,
non,
Romain?
merde. Merde.
Yes, ouf, je me sens moins seul. Mais, ok,
Une évidence. Pour moi.
il mérite peut-être pas d'être premier, parce qu'il va faire cinquième de Liège-Bastogne-Liège, il va faire douzième de l'Amstel, huitième de la Flèche Wallonne, il me semble. Mais Liège-Bastogne-Liège, il finit dans le même groupe que le 42e. Amstel, il finit pas dans le deuxième groupe. Flèche Wallonne, on le voyait, enfin certains le voyaient rivaliser avec Pogacar. Tout ça, on est très loin de ce qu'on espérait sur ces Ardennaises. Et puis le tour, bah, il est tombé, mais il a fini ce tour. Et contrairement à Van Aertvelt, que j'ai pas mis dans le top 10 parce que là, il a des graves problèmes de dos suite à sa chute, Nace, il a pas, a priori, il n'a pas eu de problème après sa chute. Donc franchement, je sais pas trop ce qui s'est passé sur le Tour de France. Il a été inexistant après aussi. Donc non, moi, alors c'est peut-être que j'ai trop d'attentes. Mais Nace, pour moi, c'était bien au-dessus de ce qu'il nous a montré.
Je vais donner la parole à Romain. Donc moi je ne l'ai pas mis. Il était même pas dans mes 5 noms bonus, mais j'entends tout à fait. En fait, sur le tour, je suis resté avec l'idée que c'est la chute qui l'a pourri. Mais même la campagne, effectivement, rappelez-vous, on se disait tous, mais ça va être. Si, limite, s'il y a un gars qui peut taper Pogacar sur du sprint,
Ouais.
c'est Nace. Bon,
Par contre,
pour
j'ai
autant, je
peur
ne
de
l'ai
ton
pas mis,
premier,
donc.
Damien, mais.
Ouais,
Oui, bah,
mais...
oui, je vais vous choquer. Enfin, et je vais me prendre une. Tu vois ce qui s'est passé avec Brennan l'épisode avant? Bah, là, c'est moi qui vais me le prendre, j'en suis sûr. Mais vas-y, Romain, sur Nace.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Alexis. Je pense qu'il a tout dit. C'était l'affect, trop grosse attente. Allez, je vais rajouter juste un truc. Alors, c'est pas ça qui est rentré en ligne de compte parce que j'ai vu la citation après l'avoir mis dans mon top 3, pour ne pas dire dans mon top 1. En fait, c'est une évidence. Quand on a commencé à parler de cet épisode-ci, je me suis dit en 1, je vais mettre qui? Ben, Nace. Et j'ai vu qu'ici, donc on sait qu'il fait aussi du CX, et dans la presse flamande, il vient de donner une interview dans laquelle il disait je ne m'entraîne pas pour gagner, je m'entraîne pour dominer. Ben, commence déjà par essayer de gagner, et après on verra. Alors évidemment, sur le CX, c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'il avait montré tellement de punch et de très très belles choses sur la route en fin de saison dernière, qu'on s'était dit. Voilà un mec un peu à la Penhoët que j'ai cité il y a quelques minutes. Voilà un mec qu'on ne doit pas mettre tout de suite sur toutes les plus grosses courses, même si les Ardennaises, il n'y en a quand même pas 50. Mais voilà un mec qui peut aller chercher vraiment des beaux succès à gauche, à droite. Et on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Et effectivement, ses plus beaux résultats, ce sont ces trois Ardennaises qui sont de niveau World Tour, voire Monument. Où c'est pas dégueu, mais sans qu'il soit dominant, sans qu'il soit vraiment dans le coup, où finalement il fait un peu jouer sa pointe de vitesse
C'est ça.
à la toute fin, quoi. Mais même dans la flèche, il était bien positionné, et puis il n'a jamais pu répondre au démarrage. Il termine encore presque par miracle 8e.
Ah, ça, c'est
Finalement,
bien.
son meilleur score, c'est deuxième au Grand Prix de Gippingen, quoi. Alors, le Nace de la fin de saison 2024, j'attends qu'il écrase le Grand Prix de Gippingen à la rigueur. Qu'il écrase des courses à gauche, à droite. Je ne dis pas Liège-Bastogne-Liège, pas la Flèche Wallonne, pas l'Amstel, mais qu'il écrase au moins des 1.1 ou des étapes sur des 2.1. On ne l'a pas vu. Et donc je me suis dit, tiens, mais peut-être qu'on va trop focaliser sur le Tour de France pour essayer de prendre un maillot à Rouen ou dans ses étapes de première semaine qui lui convenaient très bien. Pas de bol, il est tombé. Finalement, il a un petit peu aidé Milan et depuis, enfin depuis après le Tour de France, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Et donc du coup, oui, c'est une très très grosse déception. Je ne sais plus qui dans l'épisode en tout début de saison, on avait dit les fameux paris fous. Quelqu'un nous avait dit, il va faire quadruplé, je crois, c'est le cyclisme belge ou je ne sais
Ah, ils
très bien
sont
qui.
plusieurs à en avoir parlé, oui.
Ouais, plusieurs l'ont parlé, mais quelqu'un avait dit, il va faire le quadruplé sur les Ardennaises. Alors bien sûr que non, c'était un prono fou. Mais on espérait secrètement qu'il aille chercher la gagne, peut-être sur une des courses, ou en tout cas qu'il joue la gagne et n'a jamais été en mesure de le faire. Tu l'as très bien dit, Alexis, 5e à Liège, c'est en terminant dans le groupe qui fait 42e également. Et sur Wii, c'est 8e, mais en n'étant jamais dans le coup pour aller tenter de décrocher la gagne ou même fût-ce que le podium. Donc, très, très, très grosse déception, parce que trop d'attentes, mais je pense qu'il y a aussi un. Comment, autant chez Paul Penouette, dont je parlais avant, il n'y a pas cette prétention qui semble ressortir, autant chez Nace, j'ai l'impression qu'il y a cette prétention qui ressort. Je me trompe peut-être totalement, je ne le connais pas du tout personnellement, donc je m'en voudrais très fort de trahir sa personnalité véritable, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté très prétentieux qui le suit, qui le précède peut-être, et qui du coup, ben, là, pour un peu comme Maxime Van Gils, lui fait. Le faire monter peut-être dans la hiérarchie de déception de cette année-ci.
Juste deux petits points avant que Damien, tu clôtures en beauté. Premier point, il me semble que c'est mon beau-père que je salue qui avait parié sur un triplé sur les Ardennaises. Et deuxième point, j'ai eu très peur ici de me refaire une Brennan. Donc Damien, je te souhaite bonne chance pour ton premier.
Je passe dans un tunnel, j'ai plus de réseau, les gars.
Et
Bon, ben, ciao.
il
Non, mais
voulait pas
là.
dire la nationalité, donc à mon avis, je sais qui c'est.
Ouais,
Parce
là.
qu'ils sont pas 50. Sont 4 ou
Là,
5, non?
c'est non, c'est foutu là. Franchement, j'ose pas. Je vous jure que j'ai un petit stress au
Vas-y.
moment de dire le nom. Mais moi, j'ai choisi Primož Roglič.
Allez.
Ah non, tiens, je pensais à quelqu'un d'autre, mais voilà.
Oui.
J'ai choisi Primož Roglič, c'est dur, j'en suis bien conscient. En fait, dès le début, quand je l'ai mis en numéro 1, quand même, je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être quand même un peu dur, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il va quand même gagner une course World Tour en Catalogne,
Catalan, ouais.
devant Ayuso, et donc voilà.
Et avec la manière.
Oui, avec la manière. La deuxième raison, c'est qu'on sait quand même qu'on est plus sur Roglic Prime et qu'il est un peu vieillissant et qu'il donc il faut pas non plus en attendre qu'il aille jouer la gagne sur le Tour de France. Mais après ça, est-ce qu'une saison où il fait, c'est quoi, c'est huitième d'un grand tour, est-ce qu'il gagne une seule course World Tour, est-ce qu'il se retrouve 32e UCI alors qu'on parle d'un entier fantastique qui était encore au niveau, on va dire, il y a peu. Est-ce que je ne suis pas très déçu quand même de la campagne de Primoz Roglic? Si. Est-ce que je ne suis pas très déçu par lui dit que non après les interviews, mais par une attitude où j'ai l'impression que c'est bon, il a lâché le truc,
Oui.
il profite, c'est très bien, hein, mais en touriste, il vit avec ses petites soquettes, des fois il ne se rase pas, enfin, il se rase pas les jambes. Est-ce que je ne suis pas déçu de cette tournure de carrière pour Primoz Roglic? Franchement, si. Et vu que ses résultats étaient vraiment moindres cette année, globalement, parce que, ok, il gagne une course World Tour, mais Roglic, ça n'a jamais été le plus spectaculaire. Mais en pourcentage de victoire, c'était quand même toujours énorme.
Non.
Enfin, je veux dire, Roglic, c'est un gars, il brillait peut-être pas, il faisait peut-être pas rêver, mais enfin, c'était le sprinter des cimes, c'était le gars qui gagnait, quoi. Et oui, c'est peut-être dur premier, surtout quand je vois qu'il n'est pas du tout dans votre top 10, vous l'auriez au moins mis 7-8e, je me serais dit, bon, ça va.
Non,
Mais voilà, je suis déçu, honnêtement, je suis déçu de la saison de Roglic. Bien sûr que c'est pas aussi décevant que Nace, que j'ai même pas mis dans le top 10, que d'autres que j'ai cités, dans le sens où l'écart n'est peut-être pas aussi grand, mais c'est un tel champion que je suis plus déçu peut-être de voir Roglic tourner un peu comme ça, là.
moi, il y a plusieurs points qui m'ont fait l'enlever de la liste assez vite. C'est son numéro en Catalogne. Premièrement, c'est le fait qu'il ait chuté sur le Giro et qu'on ne sait pas trop dans quel état d'esprit il arrivait sur le Tour, ni quel objectif de base il avait sur le Tour, on ne le sait pas. Et aussi parce que honnêtement, c'est vrai. Alors ça peut être une déception quant à l'attitude, mais quant au résultat, moins, il a plus l'air concerné. Donc je ne suis pas étonné en fait. Quand je vois son attitude, en fait, je suis pas étonné de ses résultats de fin de saison. Donc je comprends que son attitude soit décevante, mais pour les résultats, pour moi, ça s'explique par ça, quoi.
Ouais, oui. Au fur et à mesure de saison, je pouvais être de moins en moins déçu. Mais je veux dire, si je me suis beaucoup mis au départ de la saison, en fait, pour. Et je voyais pas encore cette attitude arriver, quoi. Tu vois, chez Roglic, je pensais quand même qu'il aurait encore à cœur de peut-être aller ajouter un grand tour, ce qu'il voulait peut-être faire sur le Giro, et si on sait pas, hein, évidemment, sur la chute. Mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Au fur et à mesure de la saison, bah, j'ai commencé à l'attendre de moins en moins. J'ai l'impression que le gars n'avait plus rien à foutre. Limite, j'étais surpris qu'il soit quatrième, enfin, qu'il soit pas trop loin de Lipovic à un moment donné sur le tour. Je m'attendais à ce qu'il soit plus bas. Donc, je comprends ce que tu veux dire. J'ai adapté mes attentes pendant l'année.
Mais moi, là où j'étais surpris, c'était justement que même en étant quatrième, parlons de Lipovic, il a eu l'air de s'en foutre royalement. Son passage dans les Alpes, où je pense qu'elle, je peux me tromper, mais il me semble que quand il attaque dans je ne sais plus quel col, c'est peut-être les Arabes, enfin bref, peu importe, qui doit être le deuxième ou troisième col avant l'arrivée, il est encore quatrième au général. Et. Le truc, c'est que, alors, on peut se dire, oui, c'est une tactique de course pour faire bouger Pogacar, Vingegaard, mais non, t'es déjà trop loin pour faire bouger ça. Donc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de mettre en difficulté, pas ton leader, mais ton co-leader? Et on a revu, en fait, ça m'inquiète un peu pour Remco Evenepoel qui va aller chez eux. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu avec Vlasov et Uytebroeck sur une Vuelta. Ici, on l'a vu avec Lipovic et Roglic, il faut quand même pas oublier qu'après le Tour de France, le manager général Rolf Aldag a été mis sur une, enfin, a été prié de quitter l'équipe. Donc, est-ce que dans le management et dans le suivi humain de cette équipe, il y a eu un couac ou un problème, notamment avec Roglic, j'en sais rien, mais c'est vrai que les résultats ne me surprennent pas parce que forcément et très clairement désormais, Roglic est sur une pente descendante. Même si c'est vrai, la Catalogne, le début du Tour de France montre qu'il est quand même capable de continuer à chercher des placettes. Est-ce que c'est un coureur qui veut faire des placettes? Non. Il avait un dernier objectif, c'est gagner le Tour de France. Ici, je vois dans toutes les interviews que l'arrivée d'Evenepoel, voilà, à aucun moment, il s'est dit qu'il allait quitter l'équipe. Il a un objectif qu'il n'a jamais réussi à faire, c'est gagner le Tour de France. Il va encore essayer. On ne sait jamais sur malentendu. Et vu ce qui a l'air de se présenter du côté de l'équipe allemande, on serait parti vers peut-être une triplette avec Remco et avec Lipobi sur le tour pour amener tout le monde à être plus fort et plus costaud. Mais est-ce que les mecs vont travailler entre eux? Ça va être étonnant, enfin curieux en tout cas. Je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça. Mais oui, j'avoue que j'y ai pas pensé. Mais oui, clairement, de par son attitude, encore plus que les résultats, Roglic méritait peut-être effectivement d'intégrer ce top 10.
En fait, je pense, moi, de ce que j'ai lu, c'est fini pour le tour. Alors, je ne dis pas qu'il n'y sera pas, mais il dit que son objectif, c'est de regagner une Vuelta.
Ouais.
Donc voilà, et ça serait pas mal pour la répartition des forces en présence. Mais et après, sur le fait équipier, je pourrais dire, bah, et tant mieux s'il vient faire l'équipier sur le tour, mais je ne sais même pas. On voit aussi, alors vous me direz,
Ça
Pogacar n'a pas
m'intéresse
besoin,
pas.
mais on l'a jamais vu faire l'équipier pour Pogacar en Slovénie. Enfin, c'est pas un équipier ce gars, et je lui en veux même pas, mais c'est parce que c'est un leader né. Enfin, c'est pas un mec que tu dois
Non,
prendre en équipier, je
pense pas non plus.
pense.
Il y en a d'autres dans l'équipe.
Exactement. Les amis, bon, j'espère que tout le monde ne me tombera pas dessus. Désolé
Non, ça
aux
va.
fans de Primož Roglič. Est-ce qu'il y a des noms qu'on n'a pas évoqués, que vous voudriez évoquer?
En vitesse, j'avais pensé à Zingley parce qu'il a été invisible toute l'année, on en attendait beaucoup, mais il tombe, il chute dès la deuxième étape de la Vuelta. Or, c'est typiquement le genre de course sur lequel il aurait pu faire de beaux résultats. J'avais pensé à Tarling, mais il fait quand même une grosse chute au Giro. J'avais pensé à Rex, mais il fait quand même top 10 à Roubaix et à Gent-Wevelgem, donc je l'ai enlevé aussi. Et j'avais pensé à Kras et Tuns aussi. Mais ça, c'est plutôt le côté chauvin, du coup, hein.
Maintenant de ma présélection, mais qu'ils ne seront pas dans mes 5 noms au bonus.
Parfait.
Vas-y, Romain.
J'avais commencé par citer Jelte Krainsen, qui est
Hein?
un nom que vous avez sans doute oublié, mais qui était celui que j'avais soi-disant, comme quoi ce petit bateau, on est toujours visionnaire. J'avais dit ça, c'est la bonne pioche, ça va être la révélation. Rappelez-vous, c'était le Hollandais qui avait remporté des courses en étant stagiaire chez CQ365, je pense, et qu'on n'a pas vu, qu'on n'a absolument pas vu. Vinnie Girmay. Quelque part, cette saison décevante, qu'on le veuille ou non, après cette saison bah, qui ressemble à une anomalie finalement, plus qu'autre chose, 2024, en tout cas ce Tour de France 2024, c'est une grosse déception. Chez les autres, j'avais Maury Van Sevenant,
Ouais. Il
Luke
sortait quelques
Lamperti,
saisons.
ouais. Luke Lamperti qui était l'égal de Magnier il y a encore un an d'ici. J'avais encore cité Samuel Ford, meilleur sprinter du monde en janvier, puis qu'on n'a plus absolument vu par après. Et un dernier, alors c'est pas que la saison est vraiment décevante, c'est Ken Uytebroeks. Il a eu finalement son Utsel et compagnie, mais Ken Uytebroeks qui va chez Visma pour remporter un grand tour, c'est un flop. Donc il y a des circonstances pardon, atténuantes, mais à l'arrivée, on s'en souviendra comme un flop, je trouve. Je lui souhaite beaucoup de bonheur à la Movistar, mais c'est encore un tout autre environnement. Et donc, voilà, je suis très inquiet pour la suite de la saison de Kian. On aura l'occasion de parler de son transfert dans d'autres épisodes d'entre-saisons. Mais voilà, voilà, j'ai peur pour Kian et cette saison-ci particulièrement me donne peur.
Ouais, je voudrais rassurer nos auditeurs, si on nous demande parfois de parler de Kian, on en parlera vraiment. Enfin, on va focus sur le transfert de Kian. Donc voilà, c'est pas le moment d'en parler là vraiment beaucoup, mais rassurez-vous, on en parlera évidemment. Ah non, il me reste un nom, j'allais dire, ben, c'est bien, je crois que finalement tous mes noms ont été cités. J'avais déjà dit Vlasov et Penhoët. Vous avez cité à vous deux plein de noms qui étaient dans ma présélection, mais qui n'étaient pas dans mes bonus. Dans mes bonus, j'avais aussi Van Sevenant, j'avais aussi Binyam Girmay. Voilà, dans mes 5 noms bonus. Girmay, moi, anomalie l'année passée, oui, sur le truc maillot vert, meilleur sprinter, etc. Après, ça reste quand même décevant, même par rapport à avant. Moi, je ne me passe même pas que sur 2024. C'est quand même aussi. On pense plus qu'au maillot vert. C'est quand même le gars qui faisait rasseoir Mathieu Van Der Poel sur le Giro, hein, avant de se prendre le bouchon dans l'œil. Mais voilà. Ouais. Et moi, gars. Peut-être qu'il ne mérite pas d'être cité plus que plein d'autres, mais c'est parce qu'il avait fait une très belle campagne l'année passée, c'est Mozzato. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas vu cette année. Et donc voilà. Pas spécialement un nom très ronflant, mais. Voilà. Ben, je pense qu'ici aussi, on a encore fait le tour. Mais Romain, je vois que tu as encore envie de parler un petit peu. Je te donne la parole, vas-y.
Oui, c'est en fait c'est pour un mea culpa. Ça n'a rien à voir avec les déceptions, c'est plutôt avec l'épisode précédent. Comme on vous l'a expliqué, c'est compliqué de faire des top 10 parce qu'on fait des pré-listes et puis dans les pré-listes, on essaie d'en sélectionner 10, on essaie, et puis on réécrit tout, on recommence tout. Et en fait, en regardant mes petites notes sur mon téléphone, je me suis rendu compte que j'avais pointé quelqu'un qui aurait dû être peut-être premier. En tout cas, dans mon top 3 assuré de mes coups de cœur, de mes découvertes de l'année, et que je n'ai même pas cité du coup dans l'épisode précédent. Alors, comme vous voyez, on a les mêmes vêtements, donc on a enregistré en fait consécutivement les deux épisodes. Donc, si jamais vous l'avez commenté en disant Ah, vous avez oublié celui-là, ben voilà, je vais peut-être vous répondre. Mais c'était Javier Romeo, le champion d'Espagne en fait de cette année-ci, rouleur chez Movistar. Qui était pour moi la plus grosse révélation parce que j'attendais absolument rien de lui et pendant toute la saison il a été quand même assez impressionnant, un très très gros moteur et donc je me rappelle avoir dit dans l'épisode précédent qu'il y avait eu Kubis et Brennan qui étaient les deux noms dont j'attendais absolument rien, et ben Roméo j'attendais absolument rien non plus et pourtant c'est un gars qui court comme moi je les aime. Ceux qui nous écoutent le savent, je le dis souvent, je suis grand fan de Thomas de Gent. Et donc, ces mecs, des gros moteurs qui aiment partir à l'avant, qui sentent les bons coups, ils ne sont pas hyper nombreux. Et je trouve qu'un Roméo a montré de très, très belles choses. Mais j'espère qu'il va pouvoir encore franchir un step et que je pourrai leur citer officiellement dans mon top 10 l'année prochaine. Voilà. Mais donc, Roméo, pas une déception, mais un coup de cœur de l'épisode précédent.
Attention que tu as failli faire deux Romains, parce que tu as dit Javier Romeo, Ivan Romeo et Javier Romo. Parce que ça m'arrive aussi en plus. Je me rappelle dans notre truc Vuelta, et
Ouais.
coup de chance, c'est moi qui fais le montage, j'ai coupé. J'avais parlé dans mes attentes, ouais, je veux vraiment voir Romo, évidemment Romo, mais je parlais de Romeo, et donc qui
Bien,
n'était même pas sur
Ivan
Vuelta, donc
Romeo.
c'est magnifique. Ivan Romeo.
Ivan Romeo,
Ouais.
effectivement.
Ok, ben on verra s'il s'y retrouvera l'année prochaine. On a encore un peu de temps. Mais d'ici là, on
Oui.
va évidemment se retrouver pour d'autres épisodes, tant et plus. Donc restez bien en ligne. Bah, comme on vous l'a dit aussi pour les satisfactions, n'hésitez pas à aller nous mettre nos déceptions. Moi, je voudrais dire juste un mot. Mettez-le en déception si vous le pensez et on pourra échanger notre avis là-dessus, parce que l'épisode, sinon, il va être très long et ce n'était pas vraiment le principe. Je sais que certains vont parler de Remco Evenepoel. Vous voyez, on ne l'a pas mis dans les 10. Je pense qu'on est tous d'accord pour ne pas le mettre dans le top 10. Et si vous avez votre avis, on en discute par écrit sous la vidéo. Moi, ça me va très bien et je peux parfois entendre bah, on aura nos arguments aussi pour dire pourquoi nous, on ne le met pas en top 10 déception.
Ou un Mathieu Van Der Poel hein, qui ne gagne que deux courses de nouveau cette
Oui, c'est
année-ci.
un peu décevant qui doit compter sur une chute de Pogacar pour gagner Roubaix. Bon, donc voilà, mais donc que ce soit Remco ou n'importe qui, faites votre top 10 et qu'on discute, c'est toujours sympa. Et d'ici là, bah donc, comme je vous disais, restez bien attentifs au petit plateau. On vous promet certainement d'autres épisodes à venir très prochainement. Allez, ciao les amis, à
Ciao,
bientôt!
ciao. Ciao.